15h ici à Washington, Eric Manilakiza avec vous dans ce bulletin d'information sur VOA Afrique. Le Cameroun était sous le choc dimanche, au lendemain de l'attaque d'une école par un commando qui a tué au moins 6 enfants de 9 à 12 ans dans leur classe à Kumba, dans la région du sud-ouest anglophone, en guerre depuis près de 3 ans. L'attaque a été menée samedi matin par une dizaine d'hommes munis d'armes de guerre qui ont fait irruption en moto dans l'enceinte du complexe scolaire privé dénommé Mada Francesca International Bilingual Academy avant d'ouvrir froidement le feu sur des élèves dans leur classe. Le gouvernement a affirmé que 6 enfants ont été assassinés samedi par des bandes armées terroristes sécessionnistes. Un bilan fourni par l'ONU faisait état samedi soir d'au moins 8 enfants tués et 12 autres blessés par des tirs et des machettes. Des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la CDAO sont arrivés dimanche en Guinée pour une mission diplomatique préventive. Amnesty International a déclaré dimanche que les forces de sécurité guinéennes avaient tiré à balles réelles contre des manifestants dans des troubles post-électoraux qui ont fait une dizaine de morts. Le groupe de défense des droits de l'homme a ajouté que les déclarations de témoins et des analyses vidéo avaient confirmé que les manifestants étaient visés. Amnesty a également condamné les coupures d'Internet pendant les troubles. Le président Alpha Condé, 82 ans, a remporté un troisième mandat présidentiel controversé avec 59,49% des voix selon des chiffres encore provisoires, a annoncé samedi la commission électorale guinéenne. Mais l'opposant candidat de l'opposition, le principal candidat de l'opposition, selon Alain Diallo, conteste le résultat de la présidentielle. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est arrivé dimanche à Bamako pour établir une relation de confiance avec les autorités de transition après le putsch du 18 août et avancer dans la mise en œuvre des accords de paix d'Alger. Il s'agit de travailler avec les autorités sur les paramètres de cette charte qui intègre à la fois la mise en œuvre des accords d'Alger, la lutte contre la corruption, contre l'impunité et la poursuite des combats entre les djihadistes, en particulier dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel, a souligné Jean-Yves Le Drian. Il doit rencontrer demain le président de transition Bandao, un colonel à la retraite, le premier ministre Mokhtar Ouane, ex-ministre des Affaires étrangères et son homologue Zaini Moulay. Le procès des auteurs présumés des attentats de l'hôtel Radisson Blue et du restaurant La Terrasse à Bamako en 2015, dont une figure du djihadisme au Sahel, s'ouvre mardi dans la capitale malienne. Principal accusé, le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed ou Ahmeida, alias Ibrahim Diss, lieutenant du chef djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, ne sera toutefois peut-être pas à son procès. Les autorités au Nigeria tentaient dimanche de mettre un terme au pillage d'entrepôts qui se multiplient dans le pays en dépit de l'instauration de couvre-feu, derniers incidents en date après 2 semaines de contestation populaire. Le chef de la police du pays a ordonné samedi la mobilisation immédiate de toutes les unités opérationnelles pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. Au moins 11 migrants ont péri dimanche dans le naufrage de leur bateau au large de la Libye, a indiqué l'Organisation internationale pour des migrations, OIM. Le gouvernement israélien a donné dimanche son feu vert final à l'accord de normalisation avec les Émirats arabes unis. L'accord annoncé en août et signé le mois dernier à Washington a été approuvé à la mi-octobre par le président israélien, la Knesset, et attendait l'approbation finale du cabinet ministériel. Les États-Unis ont persuadé l'Arménie d'accepter le principe d'un cessez-le-feu dans le conflit au Nagorno-Karabakh et tente de convaincre l'Azerbaïdjan d'en faire autant, a déclaré dimanche le conseiller du président Donald Trump pour la sécurité nationale. Et le président Trump a enchaîné samedi 3 meetings de campagne du sud de la Floride à Washington, en passant par la Caroline du Nord, l'Ohio et le Wisconsin en une seule journée.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs et bienvenue à tous dans ce dialogue des religions. Eric Manelakidza avec vous depuis Washington DC sur VOA Afrique. Lionel Lunanilagahima assure la mise en onde. La vie est un processus de changement permanent. À l'origine, elle fait les mathématiques. Plus tard, elle devient ingénieure. Après plus de 20 ans d'expérience dans la gestion administrative et financière dans les organisations internationales, un mouvement intérieur se crée et décide de mettre fin à cette brillante carrière. Elle écoute sa foi, fondement de sa vie. Elle change de cap et verse dans le coaching personnel en respect avec la foi chrétienne. Elle pose une question très simple, où vas-tu ? Son but, réveiller le potentiel qui dort, avoir un objectif de vie, donner un sens à sa vie, être acteur de sa vie. Ce soir, nous parlons du coaching et de la foi. Dans un instant, nous entrons dans le vif du sujet avec notre invité. Encore une fois, bienvenue dans le dialogue des religions. Depuis Yaoundé au Cameroun, nous avons en ligne Christiane Saint-Guillaume, dit Kiki. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Voudriez-vous que je vous appelle Christiane, Kiki ou mon coach Toku, puisque vous êtes coach?
Je suis toujours Christiane quand même. Appelez-moi Christiane.
Voilà. Christiane, vous êtes chrétienne, vous savez chanter.
Oui, ah oui.
Une petite chanson chrétienne qui vous vient à l'esprit, là, tout de suite?
Oh là là, ça c'est une bonne surprise. Bon, suivant le mouvement de l'esprit, disons que oui, je peux.
J'appelle
l'esprit
saint.
Ouais. Oui. Esprit de Dieu, alléluia, descend sur nous. Esprit de Dieu, alléluia, descend. Comme le jour de Pentecôte, l'Esprit descend sur nous.
Vous connaissez sans doute cette chanson de Tala. Vous vous trouvez au Cameroun, à Yaoundé. Vous connaissez la chanson « Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale ».
Ah oui.
Où vas-tu?
Oui, je connais.
Paysan. Donc, où vas-tu, c'est aussi votre projet.
Oui, mon projet s'appelle Où vas-tu. Au début, c'était Kovadis. Bon, je l'ai changé, je l'ai dans ma langue maternelle, Ujai, qui signifie effectivement Où vas-tu.
Je vais chercher là-bas une vie meilleure. Vous n'êtes pas allé à Yaoundé pour chercher une vie meilleure?
Non, je suis à Yaoundé pour des raisons de famille, pour des raisons professionnelles, parce que mon mari travaille pour une organisation internationale. Donc, on déménage, on va de pays en pays. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Yaoundé.
À Yaoundé, Tala André-Marie qui dit vous pouvez toujours courir vers un bonheur rêvé. Cherche donc ton bonheur dans la vie quotidienne, chaque instant, chaque jour. Là où Dieu t'a placé, donc aujourd'hui c'est à Yaoundé que Dieu vous a placé.
Oui, effectivement, je suis à Yaoundé et comme le chanteur le dit si bien, j'ai appris à me déplacer avec mon bonheur, voilà, c'est bien ça, hein. C'est pour ça que je fais le coaching, je suis entrée dans le coaching justement, comme je voyais qu'on a une vie nomade, il m'a fallu trouver quelque chose avec quoi je peux me déplacer. Voilà, mon travail, je me déplace avec mon travail, n'est-ce pas?
Christiane, quel était votre rêve de jeune fille?
Quand j'étais jeune fille, j'avais un rêve. Enfin, j'avais des rôles modèles, je dirais. Je voulais aider les femmes à se développer, aider les femmes, dire aux femmes qu'elles le pouvaient. Voilà, c'était ça qui me trottinait en tête, dire aux femmes qu'elles le peuvent, qu'elles le pouvaient. Et j'étais toujours en quête de sens moi-même. Je me rappelle qu'il y a beaucoup d'années, c'était peut-être en 2002-2003, j'avais créé une association que j'avais nommée African Women's Initiative for Development parce que justement j'avais ce rêve d'aider, d'accompagner les femmes à grandir, à développer leur potentiel, à être plus grandes que ce qu'elles pensent. Voilà.
Et ça vous a intéressé pendant, disons, la première partie de votre vie, disons, la vie professionnelle, dans des organisations internationales, etc.
Je ne dirais vraiment pas que ça m'a poussé. C'est ça qui m'a poussé dans les organisations internationales. J'ai travaillé, oui, dans les organisations, mais c'était beaucoup plus pour les besoins, voilà. Parce que dans la vie, il y en a qui travaillent pour satisfaire les besoins, mais il y en a qui suivent leurs rêves, qui suivent leur mission. Et voilà, moi j'étais dans le cas, je travaillais parce qu'il nous fallait gagner de l'argent pour la survie, quoi. Et l'autre, l'association que j'avais créée, ce désir est né à un certain moment de ma vie. J'ai eu ce grand désir, c'est comme ça que j'ai créé l'association, voilà.
Vous êtes... vous étiez plutôt fonctionnaire international. Quand on réussit, on se dit que c'est ça la vie. Mais votre foi forge une nouvelle perspective et vous décidez de mettre vos talents et vos compétences au service du public. Dites-nous comment ça commence.
Je ne sais pas si je peux lier les deux, le coaching et ma foi. Mais avec ma foi, j'ai commencé à avoir à force de vivre dans ma vie de tous les jours, d'exercer ma spiritualité, de prier et tout, ça m'a poussé à une plus grande quête de sens. Et je me rappelle qu'à un moment dans ma vie, je priais, je demandais tout le temps à Dieu, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est ma place? Je sentais que je devais faire quelque chose, je sentais un appel. Voilà, c'est comme ça qu'il est cette quête. Je commençais à chercher qu'est-ce que je fais bien, comment est-ce que ce que les gens apprécient chez moi. Je demandais même à mes amis, je leur demandais qu'est-ce que tu trouves que je fais bien, qui t'intéresse, qui te donne la vie. Et c'est comme ça que tout doucement, j'ai commencé à chercher et à trouver ce qu'il y avait en moi, le talent que j'avais. Et voilà. Mais plusieurs années plus tard, plus de 10 ans plus tard, c'est là que j'ai connu le coaching en fait et que j'ai fait l'école de coaching. J'ai fait le master du coaching, mais c'est 10 ans après tout ce que je cherchais, quoi. Après tout le temps, après avoir cherché pendant 10 ans à pratiquer, à aller à gauche, à droite, j'ai fini par atterrir voilà, sur mon terrain.
La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est bel et bien un adage que vous appliquez. Très bien, vous réussissez votre vie. On ne peut pas coacher si on n'a pas réussi soi-même.
Oui, en principe, oui. C'est la loi. Mais quand même, il faut aussi savoir qu'il y a un adage qui dit que ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Mais bon, mais il faut dire que c'est après avoir cherché. Tu partages ce que tu sais, tu partages l'expérience pour faire le coaching. Pour pratiquer le coaching, c'est parce que j'ai vu qu'est-ce que moi j'ai reçu. Voilà.
J'ai vu sur votre site, vous dites la plus grande perte, c'est ce qui meurt en nous pendant que nous vivons. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ce que je veux dire par là, c'est que chaque humain, chaque homme, chaque femme a quelque chose en lui qui fait son bonheur. Je dirais que chaque homme, chaque femme a quelque chose à donner, quelque chose de divin en lui à donner. Et la plupart du temps, les gens ne savent pas. On vit, on existe en fait, les gens existent, ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose à donner. Et le bonheur de l'homme est dans le donner, non pas dans le recevoir. Et souvent, les gens cherchent le bien, cherchent le bonheur dans le recevoir. Alors que comment l'homme est créé, son bonheur est dans offrir le don. Alors, quand tu as trouvé cette chose en toi que tu as à donner, tu as trouvé ton bonheur. C'est comme ça que tu grandis. C'est ça qui est caché en toi et c'est ça qui épanouit la personne. Donc, quand tu n'as pas encore trouvé ça, je peux te dire que bon, tu peux être heureux, mais pas épanoui, disons.
Un sage chinois dit « Ta tasse est tellement pleine de ce que tu crois savoir que je ne peux rien y ajouter. » Apprendre, découvrir des nouvelles choses, ça nécessite d'accepter que ne pas savoir, c'est normal. Et comment vous faites justement pour aider les gens qui viennent vers vous?
Le principe du coaching, le coaching est un accompagnement en fait. Et c'est un accompagnement du changement. On accompagne une personne qui désire aller d'un point A vers un point B. Donc c'est la personne même qui choisit où elle veut aller. L'autre perspective, c'est qu'on peut accompagner des personnes qui ne savent vraiment pas où ils veulent aller. Ça veut dire qu'on les aide à trouver leur mission, n'est-ce pas, à découvrir leur mission. Et le travail que nous faisons avec eux, enfin, quand je dis nous, je parle des coachs en général. Et donc, c'est de les aider à trouver leur mission, à avoir des rêves, avoir un rêve, une vision. Et puis, on les accompagne du point de la situation actuelle, de là où ils sont aujourd'hui, vers la situation désirée. En fait, on engage, on amène la personne à s'engager vers son avenir, à s'engager vers son destin, n'est-ce pas ? On l'encourage et à utiliser ce qu'il a de meilleur en lui, d'utiliser ses forces. On s'appuie sur les forces de la personne pour nous diriger vers l'objectif qu'il s'est fixé. Voilà. C'est ça la méthode de travail en principe dans le coaching. Mais malheureusement, le coaching perd de temps en temps sa crédibilité parce qu'il y a beaucoup de coachs autoproclamés parce qu'ils confondent le coaching et la motivation ou autre chose. N'importe qui se lève un bon matin et dit que moi, je suis coach et ma fille commence à donner, à faire de la motivation et tout. Alors que ce n'est pas ça. Le coaching, c'est un art de questionnement. Le coaching se fait par questionnement, c'est l'écoute attentive, etc. C'est tout un procédé, en fait. Souvent, tu trouves qu'il y a des gens qui disent que je suis coach, mais voilà, on confond un peu de tout, mais le coaching est vraiment une méthode de travail bien précise, voilà, qui a ses outils aussi.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Oui, vous dites que la personne choisit d'aller vers le point de destination, il y a ce processus justement qui vous intéresse. La personne développe un nouvel esprit. L'esprit, ça peut être aussi spirituel. Et comment justement vous utilisez la foi pour vous assurer de la réussite de la personne coachée ou...
Quand on fait, dans tous les processus de réussite, il y a l'élément foi qui voit. Il y a le désir. Et puis, il y a... quand tu as d'abord le désir, tu as... vraiment envie d'arriver à une chose ou à l'autre, à changer, tu as le désir. Et puis après le désir, il doit y avoir aussi la foi que tu vas y arriver. Et c'est là que la foi doit jouer. Tu dois... tout le monde n'est pas chrétien, par exemple, tout le monde n'a pas foi en notre Dieu, ou tout le monde n'a pas. Mais par exemple, moi, ce que je fais avec les chrétiens, c'est que lorsque tu travailles sur... lorsque tu as un désir, lorsque tu veux voir un rêve se réaliser... C'est ça que Jésus nous dit toujours, priez, ayez foi, demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demandez, vous allez le recevoir. C'est cette foi qu'on développe. Et quand je parle de foi, vraiment, j'insiste sur le mot foi. Il faut avoir la foi, il faut avoir la foi en ce que tu veux, en qui tu veux devenir, en ce que tu veux devenir dans ton avenir. Tant que c'est une bonne chose, n'est-ce pas ? Tu peux être sûr que tu vas le recevoir. Quand tu réponds à ton appel, par exemple, comme moi, je travaille le coaching à plusieurs branches. Moi, je travaille beaucoup plus sur le coaching personnel. Donc, quand tu as foi, ce que je fais, j'aide les gens à aller, à suivre un chemin, à être dans leur corridor, dans leur couloir, à faire ce qu'ils doivent faire. Donc, Dieu doit te répondre. Si tu as foi, Dieu doit te répondre. Tu dois y aller, tu dois y arriver. Parce que c'est ton chemin à toi, de toutes les manières. C'est quelque chose de bien. C'est à ce moment-là que je dis que la foi sert à quelque chose. Tu dois y croire parce que c'est vrai, c'est ça. C'est ton appel, quoi. Tu réponds. Tu ne fais que répondre à un appel. Donc, il y a dans ce sens, c'est la foi. Mais sinon, je n'apprends pas aux gens leur spiritualité. Non, mais je leur demande, par exemple, quand on a... Ça dépend de type de coaching qu'on fait. Je peux avoir une personne où on travaille sur différents domaines de sa vie. Quand on travaille sur les domaines de vie, on peut travailler sur la santé, le bien-être. Ça veut dire ce que la personne... Qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu veux de ta vie, physique, c'est-à-dire que tu t'occupes de ta nutrition, des exercices physiques, et de ta vie spirituelle, quelle est ta foi ? Est-ce que tu reflètes ce que tu crois, n'est-ce pas ? Là, je suis en train de parler de la spiritualité, est-ce que tu reflètes ce que tu crois ? Est-ce que, parce que plusieurs personnes, des gens disent que bon, je crois, j'ai la foi, je suis chrétien, mais dans la pratique, il ne sait même pas ce que Jésus a dit, ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Donc on les aide à lire et à savoir qu'est-ce qu'il dit et à comprendre leur foi. Et entre parenthèses, sur ce côté, comme je crois aussi, j'ai aussi la foi chrétienne, je fais aussi à côté cet accompagnement pour les gens qui veulent comprendre plus leur foi, n'est-ce pas? Non, mais là, ça veut dire que c'est un peu d'apologétique, si vous voulez. C'est aider les gens à comprendre leur foi, pourquoi on fait ce qu'on fait, etc., etc.
Il faut donc aimer les relations humaines, être patient, être à l'écoute des autres et savoir motiver des coachés pour pouvoir leur donner confiance en eux. Lorsque vous faites face à des gens qui ne sont pas des chrétiens ou des croyants, comment vous importez à cette donne de la foi?
En face des non-croyants, de toutes les manières, quand il faut avoir la foi, tout le monde peut avoir la foi. Les gens peuvent avoir foi en eux-mêmes, peuvent avoir foi en l'univers ou en je ne sais quoi, mais moi je leur dis toujours que je parle de Dieu parce que je sais, j'ai des preuves, je donne même mes preuves, mais je dis qu'il faut avoir foi en ce que tu vas faire, puisque tu veux aller quelque part, il faut y croire. La foi est naturelle dans l'homme. Il peut ne pas croire en Dieu, mais croire en où il veut aller, au moins. Donc ce n'est vraiment pas difficile, le principe est le même, seulement que je ne vais pas lui recommander de mettre ça dans sa prière. Il ne croit pas, n'est-ce pas? Mais en principe, jusque-là, la majorité de mes clients sont des croyants, voilà. Mais il peut arriver que je travaille avec une personne qui s'en fiche pas mal de la spiritualité, de la foi, je veux dire, chrétienne, mais sinon la spiritualité, même dans le coaching, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de spiritualité, on parle de ceci et de cela à gauche, à droite, et voilà, et les chrétiens parlent de leur foi, n'est-ce pas?
Est-ce que avant de commencez votre séance, vous commencez par une prière ou en présence de la personne, ou vous le faites avant que la personne arrive?
Je la fais toujours avant que la personne arrive, mais quand je fais dans les groupes de prière, parce qu'il m'arrive d'avoir des conférences pour des groupes de personnes, voilà, et là je la fais devant l'assemblée. Parce que j'assume ma foi, n'est-ce pas? Là, je la fais en public devant les gens. Je dis que voilà, on remet tout ce qu'on va faire. Et je ne vous dirai pas pourquoi je ne le fais pas avec mes clients directement. Je n'y ai jamais pensé, mais je fais toujours la prière avant. Je prie même après, quand j'ai des clients, je prie pour eux. Voilà.
Selon les profils que vous avez déjà essayé d'aider, comment vous quantifiez, disons, le degré de la réussite?
Oui, de 0 à 10, je peux dire qu'on peut avoir 8 sur 2. Mais là aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des gens qui ne savent pas où ils veulent aller, qui n'ont aucune idée. Ils veulent tout simplement un changement, mais ils ne savent pas où ils veulent aller. Des fois, quand on commence le travail, tu dois bien expliquer à ton client que voilà, il y a où on veut aller, tu dois t'impliquer. La personne doit s'impliquer. Et quand on ne réussit pas, c'est souvent parce que la personne ne s'implique pas. La personne attend de moi que je lui donne, que je lui remette entre les mains sa réussite, alors que je ne peux pas. Elle n'est pas entre mes mains. La réussite t'appartient. C'est toi qui dois fournir les efforts. C'est toi qui dois travailler pour réussir. Moi, je ne fais que t'accompagner et te donner les outils, en fait, pour réussir. Alors, quand je ne réussis pas mes coachings, je peux le savoir. C'est souvent pour les gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, mais qui attendent, qui sont venus avec une attente, une fausse attente, comme si je devais leur remettre les clés de leur réussite en main, voilà, qui ne veulent pas travailler. Et je vous donne un exemple un peu plus concret, c'est qu'une personne doit faire, chaque semaine, tu as des exercices à faire, quand tu veux changer, tu dois travailler. Et donc, la semaine qui suit, la personne peut se présenter, elle se dit que oh, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu le faire, donc tu ne peux pas réussir si tu n'as pas le temps pour toi, n'est-ce pas? Voilà. C'est dans ce sens, en fait, qu'on rencontre les échecs, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent exactement.
Voudriez-vous nous expliquer l'exercice sur la route de la vie? Il y a quelqu'un qui dit que ça lui a appris à faire des ajustements dans sa vie, à équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. C'est un témoignage de quelqu'un.
On dessine une roue, donc c'est tout un cercle, et puis on le subdivise en différents domaines de vie. Ça veut dire, il y a la famille, il y a le couple, il y a le travail, il y a la carrière, il y a les finances, il y a. Donc tu sépares, tu crées juste pour chaque domaine de vie. Et puis alors tu fais de 0 à 10, tu fais une note. De 0 à 10, par exemple, dans ma vie de famille, est-ce que je donnerais combien? Dans ma vie de couple, je donnerais combien? Dans mon travail, c'est de 0 à 10 aussi. Et alors, comme une roue normale, elle est toute circulaire, n'est-ce pas? Tu vois, la circonférence de la roue, elle est. Alors, souvent, quand tu vois avec la note, donc on se donne, des fois tu as 2, des fois tu as 5, des fois tu as 8, et tu te rends compte que ta roue à toi ne peut pas marcher sur un vélo ou sur une voiture, elle ne peut pas marcher parce qu'elle n'est pas circulaire. Ça veut dire que ça te montre le déséquilibre que tu as, où tu as besoin d'ajuster. Donc tu te rends compte que peut-être dans ta vie de famille, tu es à 8% parce que tu donnes tout le temps aux enfants, et peut-être à ton mari tu donnes 1 sur 10, et puis tout... À 9 sur 10, tu es au travail. Donc, tu vois, il y a tout ce déséquilibre qui ne te permet pas de tracer une route. Voilà. Et c'est un exercice qui te montre, en fait, comment ta vie, elle est équilibrée ou déséquilibrée. Et ça te montre où tu dois prendre le temps. Peut-être si tu mets trop de temps au travail et que tu oublies ta famille, tu essaies de prendre le temps du travail et pour mettre dans ta famille, pour essayer de rééquilibrer ta vie. C'est ça la roue. Nous avons beaucoup d'exercices, d'outils au coaching, dans le coaching qui sont très bien, qui aident les gens à voir leur situation, où ils sont et qui encouragent à prendre les décisions.
Il y a d'autres témoignages, quelqu'un qui dit « j'ai beaucoup gagné, j'ai repris confiance en moi ». Une autre personne, j'ai appris à dire non, à éviter les relations toxiques, je me sens libre. Après ces séances de coaching, ça c'est une autre personne, j'ai compris pourquoi la peur d'avancer, j'ai commencé à la surmonter. L'autre dit, seul on va plus vite, ensemble on arrive plus loin. Le coaching a été pour moi un tremplin vers un meilleur avenir. Lorsque vous recevez ce genre de feedback de vos clients, ça vous encourage de continuer?
Oui, je pense que c'est un très, très grand plaisir quand tu as un message comme celui-là. Je vois souvent, il y a même des gens qui me disent qu'après une année, deux ans, je reçois un message qui me dit que mais voilà, maintenant je suis en train de faire ça, je suis très heureuse, je suis épanouie, tout se passe bien et tout. Je pense que c'est ça qu'on... Je dirais que c'est un achievement, c'est ça. Tu arrives à quelque chose, le résultat est palpable, la personne a réussi, est épanouie. Qu'est-ce qu'on peut donner de meilleur dans la vie? Toucher la vie de quelqu'un, c'est très épanouissant. C'est vraiment le coaching est un très bon travail, un bon travail. Et en même temps, quand tu travailles avec les autres, tu travailles sur toi chaque jour. Ça fait très plaisir de recevoir des messages comme ça.
La fin ultime, c'est la vie en Dieu. C'est ce que vous dites également sur votre site Ujahe, où vas-tu. Une petite chanson avant de nous quitter.
Je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu, merci, merci. Merci mon Dieu, merci, merci, merci mon Dieu.
Nous arrivons au terme de ce dialogue des religions. Merci à Christiane Senghiumva pour votre témoignage et votre contribution dans cette émission. On parlait du coaching et de la foi qui forge votre coaching. Merci.
Merci à vous.
Lionel Lunanila Gahima a assuré la mise en onde à la présentation. C'était Eric Manirakiza. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.